Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec du son, du sens et le Vercors à l'horizon.
En direct du studio 511 Occupé, une émission réalisée par Jérôme Chelius avec Frédéric Milano, assisté de June Loper, avec à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos.
Au sommaire cette semaine, Comme un bruit qui court poursuit la chronique des mobilisations. Dans le cortège à Grenoble, devant Sciences Po Occupé, et fait un pas de côté avec Serge Halimi du Monde Diplomatique qui nous décrit le dernier mouvement du offensive générale contre l'État social.
L'attaque qui est faite contre la SNCF, c'est une attaque qui est faite contre le monde social, en fait, en général.
Cette offensive générale a ça comme objectif, de faire avancer un projet global de transformation de la société.
Vous êtes dans le Vercors ou pas? Vous connaissez le Vercors?
Bah,
vous qui arrivez
assez.
De Paris.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui
comme un bruit qui court des montagnes du Vercors jusqu'aux amphithéâtres de Sciences Po, que face à l'offensive générale du gouvernement, c'est une riposte générale qu'il faut organiser. Convergence des mobilisations face à un projet de société néolibérale qui partout dans le monde creuse les inégalités. Aux États-Unis, la crise de 2008 a ouvert une brèche dans les consciences.
Et même la jeunesse américaine se passionne pour Karl Marx aujourd'hui, nous dit Le Monde.
En France, c'est bien sûr l'ombre de mai 68 qui plane sur ce printemps de mobilisation. À Tolbiac, bastion de la résistance étudiante, évacué dans la nuit de vendredi après 4 semaines d'occupation, on se souvient que le mouvement avait démarré après que la police soit entrée dans les universités.
Le train prévu en mai 68 partira avec un retard de 50 ans.
C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles des étudiants. Mais tout cela n'était pas du goût de Georges Haddad, le président de l'université, qui après avoir maintes fois demandé l'évacuation, a fini par déclarer mardi dernier au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
C'est un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même.
Le sexe.
Bien sûr, bien sûr. On a découvert des cocktails Molotov, vous le savez Jean-Pierre, il y a une dizaine de jours. Tout peut arriver.
Tout peut arriver, oui. La commune libre de Tolbiac est partie en exil à Nanterre et même Sciences Po, bastion de la fabrique à élite, a été par deux fois occupée. Tout peut arriver. Mais pour préparer la riposte générale, il faut d'abord comprendre la méthode, Give.
Oui, et face à la succession ininterrompue de réformes lancées par le gouvernement, on a voulu aller voir Serge Halimi au Monde Diplomatique pour un peu de perspective historique sur le projet ainsi que la méthode de cette offensive générale contre l'État social, le grand bond en arrière, pendant qu'on lui, Antoine, prenait de l'altitude.
Oui, à Grenoble, au pied du massif du Vercors, pour la manif interprofessionnelle de jeudi dernier, le 19 avril donc, qui a réuni quelques milliers de manifestants parce que la convergence des luttes n'est pas géographique. Et c'est sur les territoires que la mobilisation s'organise. 130 cortèges étaient prévus partout dans le pays, convergence des luttes et manif partout. Ah oui, Sciences Po Paris était occupé ce jeudi aussi. Tout un symbole pour la mobilisation étudiante contre le réforme en cours. Et on va y aller pendant que le campus de Grenoble lui est toujours occupé depuis 10 jours.
Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, l'écho de la riposte face à l'offensive générale.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Rue Saint-Guillaume à Paris, Sciences Po occupée depuis mardi soir.
Nous avons décidé d'occuper Sciences Po aujourd'hui.
Les étudiantes de Sciences Po contre la dictature macronienne. Ici sont formés ceux qui sélectionnent Bloquons la fabrique à élite. Macron, ton école est bloquée. Voilà, on est devant Sciences Po. Les grilles sont fermées. Prise de parole au balcon.
Arrêtez d'écouter les conneries des anti-bloqueurs. Merci.
Quoi ?
Les anti-bloqueurs,
on les cagoule. Assume. Si vous avez des revendications et que vous avez une vraie lutte, enlevez vos cagoules, vous avez peur de quoi ?
C'est parce qu'en fait, il y a de la répression sur les étudiants et les étudiantes qui sont mobilisés.
Vous n'assumez pas.
La répression, elle vient de deux endroits. De l'administration de Sciences Po, qui fait des listes de militants politiques. Ça a des conséquences à la fois sur la scolarité plus tard Et aussi...
Pourquoi vous êtes à Sciences Po si vous êtes contre le système?
Tu poses une question, tu écoutes la réponse.
Moi, je n'ai absolument rien contre le mouvement. C'est la manière dont il est mis en œuvre qui me gêne. Moi, je comprends aisément qu'on soit contre certaines politiques, qu'il y ait des choses qui doivent changer. Le problème, c'est que, regardez, on voit quoi? Il y a écrit ici, sont formés ceux qui sélectionnent. Bloquons la fabrique à élite. Sauf que ces personnes sont bien étudiantes à Sciences Po. Et regardez, on vient d'avoir un échange sur la question de savoir pourquoi ces personnes étaient cagoulées. Les personnes sont cagoulées parce qu'elles ont peur de la répression. Mais si vous êtes vraiment contre ce système, assumez. Assumez d'être contre. Si vous êtes contre le système de Sciences Po, pourquoi étudier ici? Pourquoi avoir passé un concours pour pouvoir étudier dans ces murs? Si vous êtes contre la sélection et contre tout ce que représente Sciences Po.
Non, moi, je voulais répondre à ce qui a été dit par les étudiants. Oui, oui. Moi, je suis doctorant. Je suis solidaire avec les étudiants qui ont décidé d'occuper.
Vous êtes doctorant en quoi ?
En sociologie.
Sociologie.
Ici à Sciences Po.
Ici à Sciences Po, d'accord.
Et les étudiants qui se mobilisent ici, c'est assez symbolique parce qu'il y a une partie qui a finalement compris les problématiques, les contradictions de ce système de sélection. Ils disent ici, dans les temps de la sélectivité, aussi, on se mobilise contre la sélection.
Mais c'est pas parce qu'on s'y est plié qu'on doit l'accepter,
oui,
c'est ça.
C'est
et
ça.
La cautionner, quoi.
Oui. Et aussi, je pense qu'ils ont une spécificité, c'est-à-dire comme c'est vraiment l'institution paradigmatique de la sélection, qu'ils peuvent montrer quelles sont les conséquences négatives. Donc, ce type de critiques sont une volonté de ne pas se mobiliser, une volonté de ne pas améliorer les choses, et aussi une tentative de mépriser et décrédibiliser ce qui essaie de changer.
Nous occupons Sciences Po parce que Macron en est sorti et que nous ne voulons pas finir comme lui, explique le communiqué des bloqueurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous, c'est Stop au blocus.
Oui, c'est ça.
Nous sommes des jeunes engagés.
Qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui se passe en ce moment?
Tony.
Merci.
Ouais. Nous, on est surtout opposés à la méthode. On a le droit de pas être d'accord au texte, sur le texte pour le coup. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la méthode.
Sur la sélection, c'est ça le texte?
Pas une sélection. L'idée, c'est d'améliorer l'orientation des étudiants. Donc, il n'est pas question de sélection. Le problème qui se pose ici à Sciences Po, c'est de se dire. On a des étudiants qui vont bloquer l'IEP, des risques de dégradation, des risques de violence. Ce qui se passe à Tolbiac, je pense, est assez significatif de ce qui peut se passer. J'espère que l'administration de Sciences Po sera beaucoup plus réactive. Donc aujourd'hui, on est venu pour se mobiliser, pour faire passer ce message.
Alors vous êtes ?
Alors nous sommes les jeunes avec Macron.
D'accord.
Donc on s'est engagé pour ça. Maintenant, au-delà de défendre le texte de loi qui est une chose, là, on est surtout venu parce qu'on considère que, en tant qu'étudiant, c'est important de se mobiliser, c'est important de dire qu'il n'y a pas que des personnes qui sont pour le blocus. On s'engage pour ça, on est contre le blocus, on dit pourquoi. Maintenant, on respecte les opinions de chacun. Il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour la concertation, mais il y a aussi un temps pour l'action. Voilà.
Et vous êtes vous-même étudiant à Sciences Po, hein, c'est ça ?
Moi, je ne suis pas étudiant à Sciences Po, je suis étudiant à Assas. Maintenant, je suis venu soutenir les camarades de Sciences Po parce qu'on essaye d'éviter que se reproduise le schéma de Tolbiac.
Alors là, on est devant Sciences Po, il est 19h, à peu près 20h bientôt.
Ouais.
Il y a eu un appel à venir soutenir les occupants hein, ce soir après l'AG. Donc l'AG est en cours en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement alors?
Il y a l'AG en ce moment à l'intérieur de Sciences Po et normalement devrait être débattu au sein de cet AG la reconduction de l'occupation pour cette nuit, demain. Et éventuellement pour ce qui va se passer ensuite, à savoir quand est-ce qu'on interrompt l'occupation.
Et vous êtes étudiant à Sciences Po justement?
Ouais, je suis en master de droit. Attends, baisse le micro s'il te plaît.
Ouais.
Ils nous fichent depuis des mois. Il y a vraiment au sein de Sciences Po, ça peut être intéressant pour les auditeurs. Au sein de Sciences Po, il y a une politique... de fichage des étudiants mobilisés, très actifs politiquement. En fait, on prend des risques, en fait. À Sciences Po, effectivement, on prend des risques au-delà des risques prévus par le code pénal. Depuis le début de la mobilisation, Sciences Po cherche des responsables, cherche des personnes qui pourraient porter le chapeau pour tout le monde. Nous, on se considère à Sciences Po comme étant faisant partie du mouvement des étudiants. On n'est pas juste là en solidarité avec les mouvements étudiants, on fait partie des mouvements étudiants, tout comme tous les autres mobilisations actuellement. Et bien sûr, il y a vraiment une convergence des universités. On avait des gens de Paris 1 tout à l'heure qui sont venus nous soutenir.
Tu viens de recevoir un message là?
Ouais. L'Assemblée Générale de Sciences Po. a décidé ce soir de renommer l'Institut d'études politiques l'Institut Clément Méric, à la mémoire du militant syndicaliste qui a été tué par des fascistes il y a 5 ans presque maintenant, dans les rues de Paris, en plein jour.
Donc c'est une décision qui vient d'être prise en AG, là?
Oui, tout à fait, c'est une décision qui vient d'être prise en AG.
Sciences Po est rebaptisé Institut Clément Méric, sous les applaudissements.
En la mémoire de Clément, on a voulu vous lancer un petit truc, c'est un slogan, c'est le cerveau tout bien antifasciste.
Cerveau tout bien antifasciste.
Devant l'entrée, des tables et des chaises comme barricades. Ils sont environ 70, selon la direction, à occuper depuis mardi soir le bâtiment principal de Sciences Po Paris.
Le symbole est fort, pas de cours à Sciences Po Paris. Dans cette école qui a notamment formé Emmanuel Macron, certains étudiants s'opposent aussi à la sélection des élèves par les universités.
Institut Clément Méric, voilà. Ça y est, il y a une banderole écrite en rouge. Institut Clément Méric au balcon central de Sciences Po.
Serge Hanimi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux du Monde Diplomatique. On a eu envie de venir vous voir avec l'actualité qui s'accélère et le mouvement social qui gronde, parce que on s'est rappelé d'un livre que vous avez publié, une somme que vous avez publiée il y a maintenant 14 ans, qui s'appelait « Le grand bond en arrière », avec un sous-titre qui disait « Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde ».
Parce que c'est notre projet.
Alors 14 ans après, c'est notre projet, disait notre président pendant sa campagne électorale. Est-ce que tout ce qui est en train d'être présenté comme des réformes modernes ne sont pas en fait des vieilles idées ?
Bah, disons que le monde d'aujourd'hui, le monde moderne ressemble beaucoup au monde d'avant. On a parfois effectivement l'impression que Emmanuel Macron ne fait que suivre une espèce de feuille de route qui est déjà connu. Alors la feuille de route, on sait qu'il s'agit de mettre en place une société de marché, de faire disparaître à terme la sécurité sociale et les conquêtes les plus importantes du mouvement ouvrier au cours du siècle dernier, au nom de la priorité donnée à la concurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il s'agit de la méthode permettant d'atteindre cet objectif. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant Macron, ses entretiens, en entendant ses ministres, que ça me rappelait quelque chose de très ancien, et en particulier l'une des analyses qu'avait faite un dirigeant socialiste, Macron venait lui aussi quand même de ce milieu-là, en Nouvelle-Zélande dans les années 80, qui expliquait comment la transformation d'une société régie par les principes du travaillisme, du pouvoir syndical, etc., en société de marché, devait avancer. Il disait « il faut vraiment tout faire en même temps ». C'était ça son art de la guerre, son Sun Tzu de l'époque. Et il disait, je le cite, « N'essayez pas d'avancer pas à pas, définissez clairement vos objectifs et approchez-vous-en par bonds en avant qualitatifs, afin que les intérêts catégoriels n'aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est essentielle, vous n'irez jamais trop vite. Une fois que l'application du programme de réforme commence, ne vous arrêtez pas avant qu'il soit terminé. » Et il ajoutait, « Le feu de vos adversaires perd en précision » quand il doit viser une cible qui bouge sans arrêt. Alors effectivement, on se dit, mais Est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Eh ben non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Roger Douglas, qui était donc le ministre des Finances socialiste dans le gouvernement néo-zélandais en 1984. Et qui a créé à partir de rien un parti ultra-libéral, ça rappelle un peu...
Il n'y a pas quelques analogies.
Ça rappelle une analogie que les gens peuvent avoir à l'esprit, qui expliquait ça en novembre 1989, une fois que ces réformes avaient abouti. Et d'une certaine manière, il venait de donner les recettes de la contre-révolution libérale que son pays venait d'expérimenter. Et là, on a un peu le sentiment de revoir ça, quoi.
L'éternel retour.
Les réformes qui s'emboîtent, enfin, c'est à la fois les étudiants, c'est à la fois la SNCF, ça sera évidemment les retraites, les unes après les autres.
La sécu.
La sécurité sociale. Donc ce sont des réformes qui sont évidemment voulues en même temps pour que les gens ne puissent pas réagir à tout à la fois, que chacun s'efforce de défendre son secteur et ne puisse pas défendre celui des autres, et que donc une initiative générale donne lieu à des ripostes fractionnées, qui seront évidemment détruites les unes après les autres. Et évidemment, si la riposte n'est pas une riposte générale, le combat est pour ainsi dire perdu d'avance. Donc je pense que cette offensive générale a ça comme objectif, de faire avancer un projet global de transformation de la société.
Moi, je vous demande simplement de ne pas prendre tout le monde en otage dans cette affaire. Je respecte. Je respecte.
Je respecte. Non, non,
je
ne suis pas d'accord.
Moi, je vous respecte. Je vais au contact. Je vous parle. Et je vous parle. Je dis les choses. Ma part de vérité, vous dites la vôtre. Mais moi, je ne siffle personne dans le dos. Elle va pas s'évaporer, la contestation, tant qu'on a les réformes à conduire. Je vais pas différer les réformes pour que je puisse me promener dans les rues tranquillement. Et puis, je vais pas me calfeutrer.
Ce projet de loi se décline en 8 articles. Alors, ce qui a été acté pour l'instant, c'est la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics. L'ouverture à la concurrence à partir de 2019 est également approuvée. Ce sera d'ailleurs...
Et puis, elle a un autre objectif qui est plus ponctuel, encore que ça soit décisif, c'est de casser les syndicats en portant le fer dans les secteurs où ils sont encore relativement puissants. Alors, casser les syndicats, pourquoi ? Parce que les syndicats sont en général l'âme de la résistance à une société de marché et que dès les années de l'après-guerre, Friedrich Hayek disait « on n'arrivera jamais à enfanter une société de marché si on n'a pas préalablement détruit le pouvoir syndical ». Et on constate que dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire d'autres pays, il y a eu de grands mouvements sociaux où on a porté le fer contre le syndicalisme là où il était le plus puissant. C'était les mineurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les années 47-48, et puis quelques années plus tard, ça a été les dockers, et puis après, ça a été les syndicats ouvriers dans l'automobile. Et maintenant, il reste quand même un îlot où les syndicats sont encore puissants. C'est évidemment le secteur public, l'éducation, les fonctionnaires administratifs et la SNCF. Alors pourquoi s'en prendre aux syndicats ? Parce que dès que vous avez une puissance syndicale qui est encore réelle, eh bien, la supériorité écrasante du patronat et du capital dans les relations sociales est mise en cause. Et du fait qu'elle est mise en cause, il est impossible de procéder au grand projet néolibéral qui est de creuser les inégalités ou d'accélérer ce que l'OCDE appelait dans les années 80-90 la dispersion des revenus, en présentant ça comme un objectif qu'il fallait atteindre, la dispersion des revenus, parce que ça permet à chacun, en quelque sorte, de manifester son efficience, d'être rémunéré en fonction de son talent, de ne pas être écrasé par une espèce de bureaucratie salariale, par une hiérarchie trop étroite, etc.
Tout le dogme de l'individu-entreprise.
Voilà. L'individu-entreprise, c'est pas seulement le dogme, comme vous le savez, c'est la réalité qui fait que l'écart des salaires, qui était grosso modo de 1 à 20, à 1 à 30, enfin maintenant est passé de 1 à 300, 1 à 400, et puis j'ai pas besoin de rappeler les profits du CAC 40, 100 milliards d'euros l'année dernière.
Et les concentrations des richesses dans un pays qui n'a jamais produit autant de richesses.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je dis là, c'est pas uniquement une analyse qui serait en quelque sorte biaisée par mes a priori politiques, mais ça a été admis par une étude du Fonds monétaire international, qui est évidemment passée relativement inaperçue, il y a 3 ans, et qui indiquait que le creusement des inégalités que nous avions connu ces 30 dernières années était causé pour moitié par l'affaiblissement du pouvoir syndical. Et je donne la phrase de l'étude du FMI de mars 2015, parce qu'elle est quand même parlante. Il établissait, cette étude relevait, je cite, « l'existence d'un lien entre la baisse du taux de syndicalisation et l'augmentation de la part des revenus les plus élevés dans les pays avancés dans la période 1980-2010. Donc, si vous voulez aller dans le sens de cet objectif qui est la dispersion des revenus, vous savez que vous avez un îlot de résistance qui est le syndicalisme qu'il faut briser. Et de fait, encore une fois, si la moitié du creusement des inégalités est due au pouvoir syndical, une fois que vous dégagez ce pouvoir syndical, en particulier dans les secteurs où ce pouvoir est le plus fort, eh bien vous avez une bonne chance d'arriver à ce résultat.
Comme je crois au dialogue social, je crois au rôle des syndicats et des partenaires sociaux, mais j'y crois au bon endroit, pas pour faire de la politique, pour faire du dialogue social. Ce que je propose, c'est une réforme profonde qui consiste à simplifier notre code du travail en disant la loi définit des principes fondamentaux et c'est ensuite à l'accord majoritaire d'entreprise ou de branche de définir ce qui, au plus près du terrain, sont les bons équilibres pour les salariés. Parce qu'on ne simplifiera pas notre code du travail si on ne procède pas à ce changement profond qui est un changement méthodologique et de gouvernance. Donc c'est ça le vrai changement et la différence, si vous voulez, profonde qui est la mienne avec les autres projets. Je propose de changer en profondeur les rôles parce qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont pas à leur bonne place. Les acteurs ne jouent pas la bonne pièce.
Alors on pense là quand même à deux précédents qui ne sont pas français mais qui sont très importants. Ouais. D'abord, la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis en 1981 qui est brisée par Ronald Reagan. La conséquence de cette grève brisée, c'est que les grèves cessent aux États-Unis pendant, pour ainsi dire, 20 ans. Je crois que le nombre de journées de grève est divisé par 20.
Alors qu'il y avait une vraie culture syndicale et de grève aux États-Unis jusqu'à auparavant.
Exactement. Mais une fois que ce mouvement syndical a engagé une lutte un peu solitaire, eh bien, une fois que ce mouvement a été détruit, l'ensemble du monde du travail aux États-Unis en a payé les conséquences.
Ronald Reagan.
Ce matin à 7h, les syndicats de contrôleurs aériens ont appelé à la grève. Ils violent la loi. Et s'ils ne reprennent pas le travail sous 48 heures, ils seront licenciés pour faute grave.
Autre exemple auquel on ne peut pas ne pas penser, c'est évidemment la grève des mineurs au Royaume-Uni, voilà. Entre 1984-1985.
Margaret Thatcher voulait fermer les mines qui perdaient de l'argent. Elle a refusé de céder aux syndicats jusqu'alors tout puissants, une logique capitaliste que les mineurs rejettent.
Margaret Thatcher avait dit qu'elle allait tuer tous les syndicats. Elle a commencé avec les ouvriers de l'acier, puis les chemins de fer et les mineurs, je la hais.
Cela fait presque 30 ans que son gouvernement conservateur a écrasé la grande grève des mineurs, parfois au prix de batailles violentes avec les milliers de grévistes et les forces de police. Et une année de privation extrême pour les mineurs et leurs familles.
We all chipped in together, and it was scraping for food. She didn't care.
Nous nous sommes serrés les coudes et on n'avait rien à manger, mais elle, elle s'en foutait. Elle a fait de nos vies un enfer dans ce village. Tout le monde a perdu sa maison. On avait tous des dettes et certains ne s'en sont jamais remis depuis. Mais elle, elle était tout sourire à Londres. Alors là-bas, ils pensent, oh, elle est très bien. Elle s'occupait des riches. Et pas du pauvre type de la classe ouvrière.
Pourquoi cette grève est importante et pourquoi elle fait penser un peu à la SNCF? Parce que les mineurs sont le cœur de la résistance ouvrière au Royaume-Uni. On les appelle même, à l'époque, les assassins de la classe dirigeante. Ils ont fait plier des gouvernements, conservateurs et aussi des gouvernements travaillistes, qui ont dû céder. Donc, l'objectif pour Margaret Thatcher, quand elle déclenche la grève, parce que c'est elle qui la déclenche au moment voulu, c'est de détruire ce bastion de la résistance pour permettre qu'après, il n'y ait plus de résistance nulle part. Et d'une certaine façon, il me semble qu'en s'en prenant à la SNCF, Macron, Édouard Philippe et le pouvoir actuel ont à l'esprit, évidemment, ce précédent de 1995, parce que quand vous interrogez les Français en leur demandant quel exemple de lutte sociale victorieuse ils ont à l'esprit.
C'est 95.
C'est 95. Donc on se dit que si on arrive à faire plier le mouvement ouvrier là où il a été le plus fort et où il l'a emporté précédemment, eh bien, toutes les promesses sont ouvertes. Et que c'est donc un retour à la stratégie que définissait Roger Douglas en 1989 à propos de la Nouvelle-Zélande.
Un président, est-ce que ça peut être ivre mort dans un café? lire les gros mots, faire un striptease ou un discours sans préparer. Un président, qu'est-ce que ça mange? Un président, qu'est-ce que ça boit? Est-ce que parfois ça le démange de ne plus parler la langue de bois? Un président, est-ce que ça pleure? Est-ce que ça connaît le malheur? Est-ce que parfois ça ne prend pas peur de serrer la main d'un dictateur? Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Un président, de quoi ça cause avec un autre président? Est-ce que ça rit, est-ce que ça ose, ou bien ça parle avec des gants? Un président, et c'est notoire, n'a pas réellement le pouvoir, qu'il soit de gauche ou bien de droite. Est-il puissant comme Ponce Pilate, ou simplement une marionnette à paravent, une girouette achetée par ceux qui dans l'ombre à coups de milliards dirigent le monde?
Comme un bruit qui court.
Un président, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change?
Les manifestations pour la convergence des luttes à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et de l'UNEF ont rassemblé 400 personnes environ à Roussillon et 2700 à Grenoble selon notre estimation dans la capitale des Alpes.
19 avril à Grenoble. Ouais, je suis journaliste, ouais. Moi, je suis de Radio France.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Eh bien alors, vous étiez avec nous pour le fromage, il y a le 4 avril, non, c'était le 8 avril pour le fromage. Mais si, ah, si vous êtes Radio France...
Vous, vous venez pour le, la manif Interpro, là?
Ouais, d'accord. Bravo.
Ben moi aussi.
Ah ouais,
ouais. Comment ça se passe ici, la mobilisation à Grenoble? Parce qu'on a beau parler de convergence des luttes aussi, mais ça ne se passe pas qu'à Paris et qu'il y a des cortèges, effectivement, voilà, ouais. un peu partout en France.
On en a fait un par mois pour l'instant. Un par mois. Mais il y en a de partout. Et la SNCF, ils ont fait une réunion samedi dernier déjà ici, là, sur la gare de Grenoble.
Et vous êtes syndicaliste CGT, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Dans quel secteur?
Moi, c'était l'énergie. Union locale, maintenant, de Saint-Marcelin, pour les retraités.
Tous les trois, on est.
Tous les trois, ouais.
D'accord.
Moi, je suis retraité Air France.
Vous sortez les drapeaux rouges?
Oui, on a tout ce qu'il faut, oui.
Rouge pour le sang, monsieur, pour la guerre, la guerre. Parce que Macron, il n'a que des bonnes paroles.
Alors?
Mais vous qui êtes de Paris, vous arrivez dans le Vercors. Vous savez ce qu'on a fait dans le Vercors? Oh, les Ritales, les communistes italiens, ils ont défendu pas mal de résistants, non? Vous êtes dans le Vercors ou pas? Vous connaissez le Vercors?
Ben,
vous qui arrivez de Paris. De Paris. Bon, après, approchez-vous, ça va commencer doucement.
Ouais.
Vous allez vous approcher.
Ouais,
merci.
De rien, soyez fort. Hein. N'oubliez pas de prendre de l'eau. C'est là, il va faire 30 degrés au moins.
Avec les cheminots pour faire reculer Macron. Avec les cheminots pour faire reculer Macron.
Sudrail, non à la casse du service public.
Au nom de Sudrail, moi j'appelle. J'appelle même tous les salariés français, tous les retraités, tous les étudiants, les lycéens. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour leur vie de demain. Il faut que le peuple de France s'indigne une bonne fois pour toutes. Il faut que le peuple de France prenne conscience de là où veulent nous emmener ces gouvernants. C'est une horreur, c'est nos enfants qui seront en danger, c'est leur vie de demain. Donc j'appelle à une sorte de soulèvement. Il faut que les salariés de tous bords se mobilisent et c'est tous ensemble qu'on y arrivera.
Il est 10h, à côté de la gare de Grenoble. Le cortège s'installe doucement. Alors Franck Godichaud, vous êtes prof de fac ici, hein, la fac est bloquée.
Oui.
Alors aujourd'hui, 19 avril, la manif Interpro démarre le matin, hein, parce que l'idée c'est quand même convergence des luttes, mais aussi décentralisation, quoi, qu'il y ait des manifs et qu'il y ait des mobilisations un peu partout en France. Quoi.
Oui, c'est ça, y a quand même 130 cortèges qui sont annoncés là aujourd'hui, donc l'idée c'était de multiplier nos expressions de colère face aux réformes Macron. Nous, Bien entendu, c'est la loi Vidal sur l'université, mais il y a aussi les cheminots en lutte, il y a les EHPAD, il y a toute la fonction publique qui est mobilisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de salariés du privé, de grosses boîtes du coin comme ST Micro Electronics, il y a General Electric qui sont en train de fermer ici. Donc Grenoble, quand même, il y a un gros bassin industriel qui est menacé depuis plusieurs années, et il y a eu des licenciements en vague depuis maintenant plusieurs années, donc c'est important que les salariés du privé soient aussi à nos côtés.
Donc Alice, ST Microelectronics, c'est ça ?
Ouais, je suis à la CGT. Ouais.
Et comment se passe la mobilisation dans votre boîte alors ?
Ben, c'est dur d'abord parce qu'on a quand même perdu contre la loi travail, il faut être lucide, quoi, et donc les gens, ils ont un peu du mal à voir comment on peut gagner aujourd'hui. Donc il y a une solidarité, il y a de la colère, il y a de la rage, mais je crois que voilà, c'est un petit peu le moment. Nous, ce qu'on essaie de convaincre, c'est qu'il y a deux choses. À la fois que les services publics, c'est les services publics de tout le monde, et que donc ben voilà, il faut être dans la rue pour les défendre aussi, et puis que nous, on a nos propres choses à dire contre la mise en application de la loi travail. Et puis nous, la convention de la métallurgie, la convention collective, elle est en cours de négociation aussi, et il y a plein de choses dedans qui sont dramatiques sur la déconnexion entre les diplômes et le niveau d'embauche. Et voilà, et si on fait rien, en fait, on va se faire écrabouiller par le patronat de la métallurgie, quoi. Mais après, c'est compliqué parce que nous, on a fait une grève sur la question salariale la semaine dernière. Et il faut quand même se rendre compte que les petits chefs, ils sont là devant la porte, ils regardent les gens, ils notent les noms des grévistes et tout. Donc c'est ça aussi le privé, les conditions pour faire grève aujourd'hui, quoi.
Combien d'employés à ST Microelectronics ?
4000 à Crolles et 2000 à Grenoble, grosso modo. 10 000 en France.
Alors l'abolition des services publics, la diminution des retraites, la possibilité de vous licencier sans raison justifiée, la casse du réseau ferroviaire SNCF. Vous êtes contents, les cheminots ?
Alors Franck, c'est un beau cortège quand même, hein, pour une période de vacances scolaires ici qui ont déjà commencé à Grenoble.
Oui, oui, franchement, Grenoble, c'est quand même une ville moyenne, et là, il y a du monde. Bien entendu, le fait que ce soit les vacances, ça n'a pas aidé, notamment la présence des profs et des étudiants. Mais il y a du monde, et surtout, il y a plein de secteurs qui sont représentés dans le cortège.
Et c'est une ville qui a quand même l'habitude de se mobiliser, il y a un passé rouge ici.
Bah déjà, historiquement, Grenoble, c'est la ville ouvrière, hein, la ville des mineurs aussi, la ville des tanneries, des chocolateries. C'était vraiment une ville populaire ouvrière, très organisée. Et jusqu'à nos jours, d'ailleurs, il y a des études qui montrent que c'est une des villes de France où il y a le plus d'organisation sociale et associative par habitant. Et surtout, là, on disait en général, Grenoble, c'est la ville prolétaire et Lyon, la ville bourgeoise. Il y a toujours eu cette opposition qui, d'une certaine manière, continue, mais avec des grandes évolutions. Parce que depuis, c'est aussi la presqu'île des ingénieurs, des nouvelles technologies, la Silicon Valley, entre guillemets, française. Donc il y a aussi une transformation sociologique de la ville. Et là, des secteurs qui ne sont pas faciles à mobiliser, justement, parce qu'il y a tout les cadres ingénieurs avec des assez gros salaires, mais qui sont opposés à la ville populaire et prolétaire que reste Grenoble, et surtout la banlieue rouge de Grenoble, et Échirolles, Saint-Martin-d'Hères, qui sont des villes communistes depuis la Seconde Guerre mondiale.
Demandez le Postillon, le meilleur journal de Grenoble. Enfin, journal payant.
Le Postillon, journal de Grenoble et sa cuvette. Amour, clair et beauté.
Attention, attention.
Alors, la presse indépendante est dans le cortège, il n'y a pas que le Daubé alors qui couvre la...
Non,
la manif.
Y a France Blézard. Non, nous on couvre pas vraiment la manif, non. Parce qu'on est un journal bimestriel. Du coup, on n'est pas trop dans l'actualité et dans le suivi des mobilisations et tout ça. On essaye tous les deux mois d'apporter de la matière à réflexion par ailleurs sur des sujets de mobilisation sociale ou des sujets locaux.
Alors la couve,
c'est avec
du
Piolle,
Postillon,
je positive.
Avec Piolle, je positive.
Piolle, donc le maire de Grenoble fait beaucoup de communication, notamment au niveau national, qui marche assez bien. Parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'il fait plein de choses chouettes, progressistes, je sais pas quoi. Donc là, c'est une un peu ironique pour dire que selon la communication de Piolle et de ça, tout est beau, tout est joli, tout est... Et qu'en fait, bon, derrière, c'est pas exactement ça.
Donc abonnez-vous au Postillon, quoi.
Voilà. Surtout si vous habitez pas à Grenoble. Si vous habitez Grenoble, achetez-le au Tabac Presse.
L'avenir est un projet collectif, soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, bah nous on est un petit collectif qu'on essaye par rapport à ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On pense que c'est important, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Aujourd'hui c'est les services publics, mais eux ils sont déjà une avance, quoi. C'est pas l'avant-garde éclairée du prolétariat, comme diraient nos camarades. Mais Putain, les Zadis, depuis 10 ans, ils font tout ce qu'ils font. Moi, j'y passe souvent, on a des amis. On est vachement inquiets pour eux, donc on essaye modestement de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici à Grenoble et un peu partout. Mais je pense que on peut les avoir à l'usure, quoi. On peut les avoir sur la longueur. Ils commencent à s'embourber. Il y a des gens qui ont dit « La ZAD sera votre Vietnam ». Mais bon, comme ça, en plaisantant, on a essayé de faire... On a dit que mai 68, c'était sous les pavés la plage. Et nous, on a fait des petites affiches. 2018, c'est sous les pavés la terre. Eh ouais, la plage, c'est bien, on peut se baigner, la mer, on peut pêcher et tout, mais la terre, c'est ça qui nous nourrit.
En colère, on va pas se laisser faire.
Grenoble en lutte, ils détruisent la fac, on contre-attaque. Alors c'est la fac de Grenoble, c'est ça, c'est le campus de Grenoble ?
Tout à fait. On occupe le centre de langue vivante comme un sort de quartier général en fait pour pouvoir maintenir tous les blocages. Sachant en fait que c'est une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis 2007. Et il y a la grande majorité des étudiants en fait qui nous soutiennent et qui sont derrière nous.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Les drapeaux de la CNT, du NPA, un cortège du Parti communiste, et là, il y a une voilà. Convergence et décentralisation depuis le cortège interpro de Grenoble le 19 avril. Alors, c'est quoi cette machine infernale? Cette explosion là?
C'est des pétards.
C'est des pétards?
C'est des pétards qu'on met sur les rails. Mais on tape dessus avec une masse. Ça sert à arrêter les trains.
C'est vrai? Mais dans quel cas?
En cas d'accident sur une voie, on pose ces pétards-là.
Sur le rail?
Sur le rail, le train roule dessus et il est obligé de s'arrêter.
Ah oui, c'est le train qui le fait exploser en roulant dessus.
Voilà.
Là, vous tapez dessus avec une masse, sur un bout de rail, et paf, et ça vous explose les tympans.
Voilà, c'est pour ça que j'ai un casque.
La CGT Isère, le 1er mai, tous ensemble, la prochaine manif. Syndicat CGT multiprofessionnel des retraités du bassin grenoblois. Pouvoir d'achat, retraite, salaire, emploi, tous ensemble. Rejoignez-nous, la CGT Isère.
Moi, je suis Albert Clavel, retraité ex-Schneider, ex-Merlingerin.
D'accord, donc du privé, quoi. C'est ça, les grandes entreprises ici, de métallurgie.
Métallurgie privée, oui.
Et aujourd'hui, alors, que vous trouvez que le secteur privé se mobilise et suit ce mouvement, est solidaire des cheminots, des services publics?
Le problème ne se pose pas tout à fait comme ça.
Ouais.
Il y a une question de solidarité, évidemment, puisque les salariés ont intérêt à être solidaires, mais chaque activité, chaque secteur ont leurs propres revendications. Et aujourd'hui, la mobilisation est sur les revendications de chacun et en convergence avec, bien sûr, les cheminots, Air France, Carrefour, en fait, tout ce qui se passe, les étudiants, ce qui se passe dans les facs. Notre but, c'est qu'il y ait vraiment une grande convergence pour arriver à un mouvement social de fond et durable. Grenoble est un peu le berceau de la Révolution, il ne faut pas l'oublier. Vizil, enfin, il y a eu des choses importantes qui se sont faites au moment de la Révolution, qui sont parties aussi de Grenoble et de la région. Mais moi, je parle surtout pour les retraités, parce que maintenant, quand on a été 68ards, on n'en est plus au boulot maintenant. Quoi.
Heureusement.
Heureusement.
Oui, oui.
Bien que Macron, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Hein. C'est pour ça que les retraités, aujourd'hui, notre syndicat particulièrement, le syndicat multiprofessionnel de la région, là, appelle à participer. D'ailleurs, notre d'entre eux est là. C'est aussi en solidarité, mais aussi sur nos revendications de retraités qui sont importantes pour nous tout de suite, mais encore plus pour ceux qui sont encore au travail et qui vont être retraités dans les années à venir. Là, on est en train de leur réserver un avenir difficile. Enfin, quand je dis « on », c'est nos gouvernants.
Jeudi 19 avril, manifestation interprofessionnelle, Grenoble. Départ 10h, Alsace-Lorraine. Bon, bah, ça y est, on est arrivé au bout du parcours. Hein. Il y a du monde hein, qui soutient les cheminots à Grenoble.
Ouais, c'est assez composé de plusieurs professions. Il y a les étudiants. C'est assez mixte, quoi. Et c'est ce qui nous intéresse là-dessus, quoi. C'est de bien montrer qu'on n'est pas en train de se battre pour juste nos petits problèmes de cheminots à nous. Mais que l'attaque qui est faite contre la SNCF, c'est une attaque qui est faite contre le monde social, en fait, en général. Et c'est pour ça que ça nous intéresse de faire déborder, justement, notre mobilisation sur les autres professions, et, etc. Ouais.
Alors, les prochains rendez-vous, c'est le 1er mai, hein ?
Ouais.
1er mai. Il y a le 5 mai aussi, vous parlez de débordement. Il y a un appel à débordement général ou à la fête à Macron, lancé par Frédéric Lordon et François Ruffin. Vous en serez aussi ?
Ouais, ouais. Samedi, là, il y a un rassemblement qui va être organisé devant la gare. Que ce soit sur les journées de grève ou même sur les autres journées, on va participer au maximum d'événements. L'essentiel, c'est d'arriver à agréger tout ce qui existe comme prise de conscience dans notre pays sur ce qu'est en train de devenir les politiques économiques, même si ça date pas d'hier, mais ça se renforce. C'est finalement un peu l'assaut final là, que veut faire Macron. Donc on va essayer de se battre au maximum et tous les combattants sont les bienvenus, bien sûr.
Et vous êtes satisfait de la mobilisation aujourd'hui à Grenoble ?
Il y a du monde, mais après, je sais pas vraiment à quelle échelle. Nous, ce qu'on craignait, vu que c'est les vacances, il y a eu un petit tassement au niveau des cheminots dans les grévistes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, donc ils ne sont pas comptabilisés comme grévistes, forcément. Et du coup, c'est ce qui nous inquiétait un peu, qu'il y ait une manifestation en retrait. Honnêtement, c'est clair, c'est une manifestation réussie. À quelle hauteur, ça, j'en sais rien pour l'instant. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Ouais. Franck Boyer, secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Grenoble.
Mais la journée n'est pas finie pour autant. On arrive au bout, il y a la buvette, on va boire un coup, mais vous vous enchaînez, quoi.
En fait, aujourd'hui, derrière, c'est qu'on retourne au syndicat et qu'on essaye de contacter le maximum de syndiqués pour les faire venir à l'AG de lundi prochain. Ça sera l'AG de reprise après les vacances scolaires. Donc, il faut qu'elle soit d'un gros niveau, quoi. C'est clair que là, il faut qu'on maintienne une bonne pression. Donc là, cet après-midi, c'est on rebalance pour l'AG de lundi, quoi.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, les laissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, les fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, ce n'est qu'un début.
C'est une chance, le troisième tour social, pour un président comme Macron.
Christophe Barbier, BFM.
C'est une épreuve du feu indispensable. Ça ne se fera pas sans barricade, ça ne se fera pas sans dégâts. Mais il faudra à un moment donné casser complètement l'obstruction syndicale.
Serge Halimi, Le Monde diplomatique.
Alors évidemment, parfois, le gouvernement et le patronat remportent la bataille, mais ils pavoisent trop tôt. On se souvient de Sarkozy, qui avait été élu président en 2007 et qui faisait voter aussitôt une loi restreignant le droit de grève dans les services publics.
Avec un service minimum.
Avec un service minimum, et qui l'année suivante pavoisait un peu comme un enfant hilar en disant
« Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit ».
Là, en ce moment, il y a une grève en France, et je crois que tout le monde s'en aperçoit, donc il avait triomphé un peu trop vite, et on voit qu'à l'heure actuelle, ça résiste un peu partout, les cheminots, évidemment, mais les facs, Air France, les hôpitaux, les éboueurs, les électriciens, les caissières. Le seul problème, c'est que ces mouvements semblent exister en ordre dispersé, centrés d'union, alors qu'il faudrait que ces mouvements de résistance convergent. Car après tout, ça n'est pas une réforme qui est en cause, celle de la SNCF ou ailleurs, mais le monde que ces réformes veulent mettre en place.
Voilà le projet.
Voilà, exactement.
Parce que c'est notre projet !
C'est le projet, et ce projet suggère ou impose ou requiert une résistance concertée. Comme il y a un texte là qui circule, qui s'appelle « Faire sa fête à Macron », je crois, ou « Débordement général », qui rappelle que dans le projet de loi sur la SNCF, on trouve 84 fois le mot « concurrence », mais 0 fois le mot « climat »,« réchauffement »,« biodiversité ». Donc il faut, me semble-t-il en tout cas, être à la fois conscient que cette affaire des cheminots nous regarde tous et qu'une éventuelle dispersion des luttes nous ferait tous perdre, qu'en définitive, une offensive générale appelle une riposte générale. Alors, pour le moment, il est question d'organiser cette riposte générale, de proposer une grande manifestation nationale le 5 mai prochain à Paris, et ça peut être effectivement l'un des moyens de faire converger ces mouvements qui, à mon sens, n'obtiendront de résultats favorables que si la lutte est une lutte commune.
Paris, Bourse du Travail, mercredi 4 avril.
On peut rentrer ou...
Pardon, laissez passer la bonne-part, merci.
Par contre, il va falloir que si vous voulez qu'il y a Frédéric Lordon et François Alphin qui vont venir vous faire leur discours ici. Donc il faut vous reculer un peu pour puisse installer la sonnette.
Merci beaucoup à la fanfare invisible.
François Ruffin.
Bon, alors pourquoi on est là? Quand Frédéric m'a contacté avec Loïc, avec des copains syndicalistes et puis tout ça, on s'est dit, ça part de la phrase de Roosevelt qui disait, au moment de la Grande Dépression, il faut essayer quelque chose. Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas essayer. Bon, notre proposition, c'est de faire déborder la rivière, c'est de faire sa fête à Macron, c'est de poser une date. Si nous sommes là ce soir, c'est pas seulement pour lutter contre les contre-réformes de Macron, pas seulement pour lutter contre les profits du CAC 40, les dividendes des actionnaires, la quête éternelle de profit. Moi, je suis convaincu que l'explosif, c'est le désir d'autre chose, le désir d'un autre chose joyeux, et c'est ça qui, à mon avis, peut faire sauter le couvercle. Le message, c'est le 5 mai, la fête à Macron, le 5 mai, débordement général, nous avons le droit d'espérer. Merci à vous.
Frédéric Lordon.
Bon, je crois que vous avez compris maintenant que nous ne sommes pas là pour procéder à quelques reconstitutions de ligue dissoute. On n'est pas là pour rejouer à demi debout. Nous sommes là pour autre chose. Quand des politiques publiques, continuellement poursuivies depuis 30 ans, les fanatiques qui se présentent comme des modernisateurs, des pragmatiques et des bâtisseurs sèment l'inefficacité, l'absurdité managériale et la démolition, car voilà la vérité, ce sont des bousilleurs, ce sont des démolisseurs. Ils démolissent les collectifs, ils démolissent un état d'esprit, celui du service du public, et pour finir, ils démolissent les personnes. Après déjà de trop nombreuses étapes, les ordonnances SNCF ne sont qu'une extension supplémentaire du domaine du saccage général. Si le macronisme a une seule vertu, c'est de rendre de plus en plus visible à tous la cohérence d'une offensive généralisée. Il faut que tous sachent qu'ils sont tous candidats à y passer et qu'ils sachent aussi qu'ils ont les moyens de faire dérailler le convoi. On nous demande ce que nous voulons. Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. Il faut dire à tous ceux qui se sentent dans le malheur qu'il y a une issue. Ne restez pas seuls. Rassemblez-vous. Luttez. Luttons. C'est le moment.
Une question que j'ai aussi, Serge Halimi. Vous parliez de 95, qui reste dans les mémoires comme une des victoires du mouvement social contre cette volonté de réforme des gouvernements successifs. Néanmoins, le gouvernement y a pensé aussi, s'est préparé aussi à l'offensive. Et puis depuis, il y a eu d'autres mobilisations un peu partout dans le monde qui ont été sémées, dénonçant la même financiarisation de l'économie, la même offensive libérale sur les communs en général. On pense à Seattle, Gênes, qui avait fait du bruit à l'époque. Après, il y a eu les forums sociaux mondiaux, il y a eu 2007, il y a eu la Nuit debout il y a 2 ans de ça. Pourquoi ça retombe à chaque fois ?
Bon, il y a des mouvements qui réussissent, il y a des mouvements qui échouent, mais même dans la période récente, vous avez eu des mouvements qui ont réussi. On évoquait 95, mais il y a eu des mouvements postérieurs à 1995, y compris aux États-Unis. Il y a eu une grève des camionneurs à la fin des années 90 qui s'est traduit par un résultat très important dans un secteur où les échecs avaient été particulièrement nombreux. Par ailleurs, ces mouvements ont débouché aussi sur un climat intellectuel, un climat idéologique, dont il est évident qu'il n'est pas le même qu'il y a une trentaine d'années. Vous voyez la mobilisation dans les facultés, il y a des gens qui, de fait, refusent ce monde. Le néolibéralisme ou le libéralisme a perdu sa part de rêve, n'est plus un projet collectif enthousiasmant pour personne, sauf peut-être pour les gens qui entourent le président de la République.
Plus personne ne croit au ruissellement de la richesse des plus riches sur les plus modestes, quoi. Occupy Wall Street est passé par là aussi.
Voilà, et d'ailleurs, quand vous évoquez cette théorie du ruissellement, les responsables politiques se récrient en disant qu'ils n'y croient plus. Il y a un moment où ils la défendaient, maintenant ils n'y croient plus.
Je ne crois pas à la théorie du ruissellement, simplement.
Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux, il faut dire c'est formidable. Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part.
Je ne crois plus non plus à l'autorégulation des marchés.
Voilà. Et on voit aussi qu'un certain nombre de forces de gauche qui avaient en quelque sorte relayé cette idéologie néolibérale, un peu comme en Nouvelle-Zélande le Parti travailliste, ou bien le Parti socialiste en France, ou bien les bléristes au Royaume-Uni, ou bien le PSOE en Espagne, ont été sanctionnés très durement par les électeurs, très durement aussi par leurs militants, puisque les partis se sont vidés, et des forces neuves sont apparus, qu'il s'agisse évidemment de Podemos, de Corbyn ou de Sanders aux États-Unis, qui n'existaient pas et étaient à vrai dire à peu près inimaginables il y a une trentaine d'années. Corbyn, il y a 5 ans, personne ne l'aurait imaginé. Là, il est possible qu'il devienne le Premier ministre. Sanders...
Un socialiste. Aux États-Unis.
Un socialiste septuagénaire dans un État, le Vermont, qui est tout de même pas le centre de la vie intellectuelle ou économique du pays, qui arrive pratiquement à faire jeu égal avec une ancienne secrétaire d'État que tout le monde annonçait comme élue. Bon, c'est aussi le produit de ce bouillonnement à la fois intellectuel, mais de ce bouillonnement social, et du fait que les gens ont compris quelle était la direction dans laquelle voulaient les mener les responsables politiques, à la fois de droite et puis de gauche, dans cette famille néolibérale.
L'esprit vainqueur ! La jeunesse est là ! Les sans-papiers, l'université, la force en public ! Et nous y sommes !
Dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci, Pierre Rimbert évoque un discours de Malraux à propos de Jean Moulin, où il disait que la possibilité de se battre pour des gens qu'on ne connaît pas, de penser à eux comme à des proches, parce que leur lutte rejoint la nôtre et parce que notre engagement rejoint le leur. C'est un peu une perspective qui me semble être en phase avec la nécessité du moment.
Et pour celles et ceux qui voudraient suivre l'appel lancé par André Malraux, rendez-vous le 5 mai à midi au Louvre à Paris pour faire la fête à Macron.
En attendant, vous pouvez vous procurer la réédition augmentée du Grand Bond en arrière de Serge Halimi aux éditions Fayard, ou alors trouver en kiosque, toujours disponible, le dernier numéro du Monde diplomatique.
Et prochain rendez-vous dans la rue, avant celui de samedi, donc c'est mardi prochain pour le 1er mai, la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, des défilés un peu partout dans le monde, en France et à Grenoble.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit que le bruit court. #ComeUnBruit. Nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.